Lundi 26 janvier 1998, cours de Raveman, Shir HaShirim, à Montevideo.
On va pas tarder à y aller. On va pas tarder à y aller là. Vous n'avez pas les distribuer les tests. Farim et Meradi. Alors là, on est obligé de lire trois versets en même temps. On va essayer de traduire littéralement d'abord. Shlachayir pardes limonim. Shlachayir. Il y a deux interprétations. Shelachayir, ça peut venir du mot shlachim, qui veut dire un champ qui a besoin d'être arrosé fréquemment. Et shelachayir, ça peut vouloir dire, ça vient du mot shaleach, qui peut vouloir dire le rejetant. Lorsque l'on plante une vigne, et que on utilise les morceaux de vigne pour en planter une autre, on appelle ça les rejetons. Pardes limonim, mot à mot, pardes limonim, c'est comparé à un champ de grenade, imperi megadim. Peri megadim, c'est des fruits qui ont une bonne odeur. Que farim im meradim, ce sont des parfums. Kofer, quelquefois on dit que c'est le parfum qui s'appelle aîné. Et meradim, c'est ce qu'on appelle le nard. Continuons le verset. Ner v'charkom kane v'kinamon im kol atzel bona. Ner v'charkom, c'est le même parfum que Noradim. Karkom, c'est un parfum connu qui s'appelle
Safran.
Il a raison. C'est le safran. Kané, c'est la cannelle. Kinamon, c'est le cinam. Imkol atselvona, avec tout les arbres odorants. Mor, c'est le myrte. Arolot, c'est l'aloès. Imkol rachet le samim. Rachet le samim, c'est les parfums essentiels. Mayan ganim. Mayan, la source. Ganim, qui va abreuver le jardin. Be'er, le puits. Maïm chaim, d'eau vivante. Venozlim min vanon, qui coule mine vanon depuis le Liban. Ces versets-là font sont la suite du verset Yud et Yudalef qu'on avait vu la dernière fois, où c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui fait l'éloge du peuple juif. Avant de parler des jeunes filles, cette fois-ci on va parler des garçons. Shelachayir, donc vous voyez que les deux interprétations, et celle de Rashi, celle de Midrash, Shelachayir, que ce soit le rejeton, ou Shelachayir, que ce soit la terre qui a besoin d'être abreuvée, on parle des enfants. Pardes Rimonim. Pourquoi le Rimon? Parce que c'est connu que Nimshulu Israël, le Rimonim, les jeunes juifs ont été comparés à un Rimon. Pourquoi? Parce que la Gemara dans le traité de Shabbat dit que Rimonim, c'est la grenade, et de même que la grenade est pleine de pépins, de même les jeunes juifs sont pleins de mitzvot. Et après, on va commencer à parler de tous les parfums qui étaient utilisés au Beth Amikdash pour arriver à dire Mayan Ganim. Alors attention, lorsqu'il s'agissait des jeunes filles, on avait l'expression Mayan Khatum, la source fermée. Ici, c'est le contraire, Mayan Ganim Be'er Mayim Chaim. Mayan Ganim, c'est l'eau qui va abreuver le jardin. Be'er Mayim Chaim, Nozlim in Levanon, on va expliquer qu'est-ce que c'est qui coule du Liban. Rashi dit, comme ça coule de très hautes montagnes, l'eau se purifie de plus en plus pour arriver à être absolument propre. C'est ce qu'on appelle Nozlim in Levanon. Vous savez que dans tout Shir HaShirim, le mot Levanon veut toujours dire aussi le Beth Amikdash, le temple à Yerushalayim. Donc il faut voir comment est-ce qu'on arrive à comprendre cette expression avec l'explication de Rashi. Alors on va commencer par le début. Shlachayir par les cérémonies. Vous savez que dans l'éducation des enfants, parce que finalement, ces trois versets parlent de ça. Ce qu'on a vu il y a 15 jours et ce qu'on va voir maintenant, il y a plusieurs principes qui découlent ou que l'on fait découler ou que l'on rattache à un verset qui est très connu, qui est de Shlomo HaMelech dans Michelet. Chanoch lanar al pidarko. Éduque, nar, l'enfant, al pidarko, selon son chemin. Gam ki azkin, alors, lorsqu'il vieillira, lo yasur mimeno, il ne s'écartera pas de lui. La première chose à observer, c'est qu'il y a un chemin et que chacun a son chemin. Alpidarko. Chanoch lanar alpidarko. Le Gaon de Vilna explique qu'est-ce que c'est que ce darko. C'est les limites que l'on doit donner à chacun. Vous savez que chacun n'a pas les mêmes limites. Chacun n'a pas les mêmes possibilités. Le chinuch, c'est pas de mettre tout le monde dans le même moule. C'est que chacun puisse connaître son propre derrière. Pourquoi? Parce que le Gaon de Vilna explique qu'est-ce que ça veut dire gam ki azkin, lorsqu'il vieillira, lo yasur mimeno, il ne s'écartera pas de lui. De quoi de lui? Alors il explique, il dit, il faut comprendre que c'est du derer achino, c'est-à-dire du chemin de l'éducation. Si on veut comprendre ce qu'il dit, ça veut dire en clair, hein, on doit apprendre quelqu'un à s'éduquer. Et s'éduquer, ça prend toute la vie. Donc le pshat dans le verset serait « Chanoch lanar al pidako » éduque l'enfant selon son propre chemin. Gam ki azkin, lorsqu'il sera vieux, lo yasur mimeno, il ne s'écartera pas de cette éducation qu'on lui a appris. On lui a appris à s'éduquer. Ça veut dire, on lui a appris à s'adapter aux situations auxquelles il devra faire face par rapport à ses propres capacités. Ça veut dire que la première chose que l'on doit essayer de comprendre, c'est quelles sont les possibilités, en fin de compte, c'est ça, les limites de la personne, de quoi est-elle capable, et qu'est-ce qu'on peut exiger d'elle. À partir du moment où quelqu'un est habitué à ce que l'on n'exige pas d'elle, qu'on n'exige pas de lui ce qu'il ne peut pas faire, mais qu'on exige, oui, de lui ce qu'il peut faire, il pourrait adopter ce derrière ce chemin qui est un chemin de chinour. On va s'expliquer qu'est-ce que c'est que le chinour. Le chinour, on pourrait traduire en français entraînement. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà dit souvent, il est écrit à propos d'Avraham Avinu. Veha Elohim Nissa et Avraham. Dieu a éprouvé Avraham. Tout le problème est de savoir pourquoi tu éprouves Avraham. Il y a beaucoup de gens à éprouver. On vient tout d'un coup, on dit, Vaïloki, Misa et Avraham. Rachel nous dit au nom du Midrash. Machal, la parabole est, lorsqu'un potier veut s'assurer que la poterie tient, il va prendre son marteau, il va frapper délicatement dessus. Mais il fait très attention de ne frapper que sur les poteries dont il est sûr qu'elles vont résister, parce que le but de l'opération, c'est de ne pas les casser. Donc on va frapper exactement sur la poterie dont on est sûr qu'elle va tenir le coup au choc qu'on va lui imprimer. C'est comme ça que dit Rachid. Demande le Ramban, Nachmani. Il dit, si c'est comme ça, alors c'est pas la peine de donner une épreuve. Puisqu'on calcule l'épreuve de façon à être sûr qu'Avraham réussisse. C'est ça le machal du potier. C'est que le potier va surtout pas casser. Donc Akadosh Baruch Hu va lui donner une épreuve dont il est sûr qu'il va réussir. S'il est sûr qu'il va réussir, alors tu n'as pas besoin de frapper dessus. Ça, c'est la question du Ramban. Le Ramban répond que le mot Nes en hébreu, ça veut dire drapeau, étendard. Le mot Nisayon vient du mot drapeau. Le drapeau, c'est celui qui fait connaître vers l'extérieur la nature de celui qui le porte. Chacun a un drapeau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque tu dois te ranger, tu te ranges sous ta propre manière. Vis-à-vis de l'extérieur, tu as ta propre manière. Akadosh Baruch Hu, pour lui, il savait très bien de quoi était capable Avraham. Mais Avraham ne savait pas. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est pour la poterie qu'il faut frapper, c'est pas pour le potier. Le potier sait très bien. Il se trompe jamais. Parce que s'il se trompait, il finirait par casser sa production. Donc le potier lui-même, ça n'est pas pour lui qu'il a besoin de frapper. C'est pour la poterie. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu était obligé d'envoyer un Issayon, une épreuve à Avraham, pour que Avraham sache de quoi lui-même était capable. Pourquoi ? On a déjà dit que si je vois quelqu'un qui se noie et que je n'ai jamais nagé de ma vie, je pense que je suis incapable de le sauver et je ne vais pas arriver à le sauver. Mais si je me suis entraîné et je sais nager, alors je vais arriver à le sauver. Mais quelqu'un qui ne plonge pas, je pourrais lui dire, plonge, peut-être que tu arriveras à nager. T'en sais rien, qui te dit que tu n'es pas capable ? Le fait de ne jamais avoir essayé équivaut à se sentir incapable. Si quelqu'un vient me demander, est-ce que toi tu sais sauter la barre des 2 mètres ? Je ne sais pas. Je ne vais pas dire peut-être. Pourquoi peut-être ? Si je me suis entraîné, je suis arrivé à 1,99 m, alors je peux lui dire, oui, à partir du moment où je sais de quoi je suis capable, je suis effectivement capable. Mais si je ne le sais pas, je suis effectivement incapable. Parce que le non-savoir de ses possibilités pour un homme honnête, ça équivaut à ne pas avoir de possibilités. Mais pas à prendre en compte que peut-être il a ses possibilités. Ça veut dire que lorsque Akadosh Baruch Hu envoie un Issayon, une épreuve à un homme, c'est pas pour que le bon Dieu sache de quoi il est capable. C'est pour que lui sache où est-ce qu'il en est. À partir de ce moment-là, on va comprendre que on ne peut pas mettre quelqu'un devant une épreuve à laquelle il n'est pas capable de se mesurer, pour la bonne raison que le sens de l'épreuve, c'est de révéler à la personne ce dont elle est capable. mais pas de lui révéler ce dont elle est incapable. Parce que même si je ne lui révèle pas, il est incapable. Je peux venir dans une classe et faire l'exercice de maths. Si je n'ai pas fait le cours avant, personne ne va essayer de faire l'exercice. Pourquoi ? Je ne sais pas de quoi ça parle. Pourquoi est-ce que moi, je m'attellerai à une tâche dont on ne m'a pas donné les éléments ? Maintenant, il est possible que je retrouve les éléments tout seul. Pourquoi ? Parce qu'il y a des cancres qui sont tellement paniqués qu'au moment des interrogations, ils arrivent même à l'âge de 10 ans à retrouver, à refaire le cours eux-mêmes tout seuls pendant le temps de l'interrogation, tellement ils sont paniqués par la mauvaise note. Mais la plupart des gens ne sont pas capables de faire ça. Lorsque je n'ai pas les éléments, je ne me mets pas en branle puisque je suis incapable. À partir du moment où on m'a donné les éléments, alors là on va voir, est-ce que j'ai bien assimilé ou j'ai pas bien assimilé. Le derrière du rhino, c'est de montrer à un enfant où est-ce qu'il en est, pour qu'il sache exactement où il en est. La vie elle-même, le derrière de la vie qui est le derrière du Nisayon, qui est que la vie ne vaut qu'à partir du moment où je peux me soumettre à des épreuves incessantes, parce que sinon elle n'a pas lieu d'être, c'est simplement pour que je puisse savoir où j'en suis. On appelle ça le chinour. Ça veut dire que le chinour, c'est pas l'éducation, c'est pas embrigader un enfant pour le préparer au moment où il aura des problèmes. Le chinour, c'est montrer à un enfant quelles sont ses capacités. Tout ce qui est fait dans un autre but, c'est le contraire du chinour. Ou c'est flatter un enfant, ou c'est le casser. Il ne doit pas y avoir d'autre but lorsque on éduque un enfant que de le mettre en contact avec ses propres capacités. Pour ça, il y a plusieurs obligations. La première obligation, c'est de l'avoir mis au courant du problème. Je ne peux pas donner l'exercice de maths si je n'ai pas à donner le cours d'abord. Le mettre au courant du problème, ça veut dire qu'on doit lui tracer les limites exactes. Un enfant pour lequel ça n'est pas défini exactement ce qui est permis et ce qui n'est pas permis, ce qui est bon et ce qui est mauvais, on ne peut pas lui demander au moment où il sera devant le choix d'avoir un choix positif. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas tracé exactement les limites. Ça, c'est la première chose qu'on doit savoir. Comment est-ce qu'on trace les limites ? On est obligé de le mettre au courant de tout. C'est la raison pour laquelle la Torah ordonne qu'un enfant, avant l'âge de la bar mitzvah ou la bat mitzvah, ait pratiqué toutes les mitzvot de la Torah lorsqu'il était petit. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va lui donner les limites de la façon dont on se conduit dans la vie. Si j'ignore des mitzvot, je n'ai pas les limites qu'il faut. Je ne sais pas est-ce que c'est bon ou c'est mauvais. Est-ce que c'est difficile ou c'est facile ? Je n'ai pas pu me mesurer aux mitzvot. Même les mitzvot qui pourraient mettre en danger l'enfant, par exemple le fait de jeûner, tout le monde ne supporte pas. C'est recommandé qu'un enfant, avant la bar mitzvah, ait déjà jeûné pendant 3 jeûnes pour qu'il puisse savoir exactement de quoi il est capable. Ça, c'est la première des notions. C'est ça ce qui a marqué « Shelachayir ». « Shelachayir », c'est-à-dire tes enfants. Ou on le traduit carrément par « rejeton ». Ou on le traduit par « une terre qui a besoin d'être abreuvée ». Par des cérémonies. Même les enfants du peuple juif sont pleins de mitzvot, purimon. On n'attend pas le dernier moment pour fixer les limites. Parce que les limites, ça n'est pas du domaine du savoir, c'est du domaine de la personnalité elle-même. Ça n'est pas qu'on dit à un enfant, ça c'est bon, ça c'est mal, ça c'est ceci, ça c'est cela. C'est que un enfant doit savoir jusqu'où il a le droit d'aller, jusqu'où il n'a pas le droit d'aller. Et ça, on ne peut le faire que si on le met dans la même situation, toute proportion gardée, que l'adulte. Là, on va arriver au deuxième problème. Lorsqu'on parle ici que farine, radim, merbe, karkom, kaneb, kinamon, ratse, levona, il faut savoir que dans la tradition du Midrash, il y a une différence entre le goût et le parfum. Le goût, c'est le savoir. Je sais quelque chose. Le parfum, c'est pas le savoir. C'est la manière dont on a intériorisé les choses. Lorsque l'on parle de parfum à propos d'un enfant qui sent bon, ça veut dire qu'on lui a véhiculé quelque chose, mais qui n'est pas du domaine de l'apprentissage de la façon dont nous on le connaît. Je peux entraîner un enfant au calcul, l'addition, la division. Ça, dans le langage des Chachamim, c'est le goût. Mais lui donner un parfum, ça veut dire que je lui transmets des informations dont il n'y a aucun matériel qui est le porteur de l'information, si ce n'est le parfum qui se transmet. Vous savez que tout est matériel. Même le parfum, ce sont des molécules. Mais dans le langage de la Torah, lorsqu'on parle de parfum, on parle de choses qui ont l'air immatérielles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sensibilité d'un enfant, elle est beaucoup plus éveillée à copier ou recopier ou adapter son langage à celui et à ceux qui l'entourent plutôt qu'à la transmission des connaissances. La transmission des connaissances, elle n'est pas obligatoirement faite par les parents. Transmettre des connaissances, un livre peut transmettre des connaissances, un professeur peut transmettre des connaissances, la télé peut transmettre des connaissances. La transmission des connaissances, c'est vrai que c'est important comment c'est fait. Mais une grande importance, ça n'a pas au niveau de la transmission. Ce qui est important, c'est le parfum. Ça veut dire que l'enfant sente ce qui se dégage de la mitzvah. Si on transpire la mitzvah, un enfant va sentir qu'on transpire. Si on ressent la mitzvah, un enfant va sentir qu'on le ressent. Ça veut dire que le comportement de l'adulte, ce qu'on appelle quelquefois le non-dit, c'est là où on va retrouver exactement ce que copie l'enfant. Et si on veut que cet enfant ne copie pas le non-dit, on va être obligé de le transformer en connaissance, en dit, pour pouvoir le corriger. On va être obligé de lui expliquer que ce non-dit-là, en réalité, il faut le corriger, et ça va devenir des connaissances qu'on va être obligé de lui transmettre de façon abrupte, parce qu'on n'a pas été capable de lui transmettre le non-dit comme il faut. On a déjà expliqué un jour l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Elisha Ben Abouya. Il y avait un monsieur qui s'appelait Elisha Ben Abouya. C'était un des contemporains. C'était même l'élève de Rabbi Meir. Un des contemporains de Rabbi Yehuda Alassi, celui qui a rédigé la Mishnah. Ce Elisha Ben Abouya, un jour a décidé de renoncer ou de renier la Torah qu'il avait apprise. La Gemara va plus loin. Elle dit que c'est un monsieur qui avait renoncé à son Olam Haba. C'est-à-dire qu'il estimait que sa nature, c'était une nature qui n'avait pas de place dans l'Olam Haba. Et que par conséquent, il n'avait aucune obligation de pratiquer la Torah et les mitzvot. Il existe un Tosafot dans la Gemara, dans le traité de Chagiga, dans Tetzaïm, et le Tosafot, au nom du Talmud Yerushalmi, il raconte une histoire. Il dit voilà, le jour de la Brit Mila de ce monsieur Elisha, son père Avuya avait fait une grande fête. Il avait invité là-bas Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et les deux étaient en train d'étudier la Torah. Et à un moment, il y a un feu qui a entouré la maison de ce monsieur Avuya. S'est précipité vers ces deux-là. Il leur a demandé, Vechi l'Israf et Betibatem, est-ce que vous êtes venus pour me brûler ma maison? Ils ont répondu, nous étions en train d'étudier la Torah. Vehayu advarim msamchim kinatinatam misinai. Et les choses en sont arrivées à un stade de simcha comme le jour où la Torah a été donnée. Et de même que la Torah a été donnée par le feu, alors c'est à ce moment-là qu'il y a un feu qui est apparu, qui entoure la maison. Raconte ce monsieur Elisha que son père a dit à ce moment-là, si ça c'est la force de la Torah, alors je consacre mon fils à l'étude de la Torah et je ne veux pas qu'il fasse autre chose que d'étudier la Torah. Continue ce Elisha, il dit, « Ve'oil ve'loaya kavanato la shamayim. » Puisque son intention n'était pas pure, alors je suis devenu ce que je suis. Il est évident que les commentateurs sur le Yerushalmi demandent qu'est-ce qu'il y avait qui était d'une intention pas pure dans le fait que son père, lorsqu'il ait vu la dimension que prenait la Torah de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et voulu que son fils soit comme ça. C'est pas honteux, au contraire. Pourquoi est-ce qu'on va dire que la Kavana, elle n'est pas la Shamaïm? C'est pas quelque chose de pur. Une des réponses, elle est celle-ci. Lorsque quelqu'un pense que la Torah a une force, alors il essaye de se l'approprier lui-même. Si Elisha, si son père Abuya, a ressenti la force de la Torah, alors c'était à lui de dire, à partir de maintenant, je vais commencer à fréquenter le Beit HaMidrash, à partir de maintenant, je vais aller m'atteler à l'étude de la Torah. S'il a parlé de ses enfants, c'est qu'en vérité, sa kavana, son intention, ça n'était pas de faire quelque chose qui objectivement a une valeur, mais d'avoir une valeur comme Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer avaient à ses yeux. Donc, Elisha vient et il dit, voilà, si mon père avait mesuré la valeur de la Torah lui-même, alors je ne serais pas devenu ce que je suis devenu. Mais comme mon père n'a mesuré la valeur de la Torah que à la valeur de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il a juste voulu que je sois quelqu'un comme Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, on ne peut pas copier. Ça, c'est impossible. Celui qui pense que la Torah a une valeur, il va s'asseoir. Mais il n'attend pas que ce soit ses enfants qui le fassent. Et même si dans les possibilités, c'est impossible. Et c'est vrai que la Gemara, dans le traité de Kiddushin, demande ou lui mode, ou non lui mode, lui, son fils, qu'est-ce qui passe avant? Lui aurait pu dire, j'ai envie d'étudier la Torah. Ah, comment tu vas le faire après? On verra bien, mais ne parle pas de tes enfants. Si on essaie de réfléchir à cette histoire-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire ceci. C'est que si quelqu'un a en lui des valeurs, ces valeurs, elles se transmettent. Mais si quelqu'un en lui n'a pas de valeur, mais il arrive à une transmission, qui est la transmission non pas par le parfum, mais par l'écrit, par la parole. En vérité, la vraie transmission, elle a quand même été faite par le parfum. Ce Elisha, qu'est-ce qu'il a pensé? Il a dit, c'est bien d'être des gens comme Yoshua, mais les erreurs. Alors son fils, qu'est-ce qu'il a pensé toute sa vie? C'est bien d'être des gens comme les erreurs, mais Yoshua. Un jour, il en est assez de se déguiser, de se dire, c'est bien d'être comme les autres. Il a dit, mais non, je vais être comme je suis, c'est-à-dire rien. Si on lui avait dit, c'est pas Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua le problème, c'est la Torah le problème, alors à ce moment-là, peut-être qu'il aurait senti le parfum de c'est bien la Torah. Mais il a sorti, c'est bien Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua. Donc il a essayé de devenir comme Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua. Mais ça, c'est des choses qui ne peuvent pas se copier. On a donné un nouvel exemple. La Gemara, dans le traité de Shabbat, la Gemara raconte l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai et de son fils. Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, c'était des gens qui étaient enfermés dans une caverne à cause des Romains pendant 12 ans, qui n'ont pas pu sortir, qui ont étudié la Torah. Rabbi Yehoshua avait un derer, c'est-à-dire que sa façon de vivre, c'était à l'inverse de Rabbi Ishmael, qui prône Tom, Torah en Derech Eretz. C'est-à-dire que la Torah, pour la majorité des gens, en tout cas, elle doit s'accompagner d'une vie équilibrée. Lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que Va'asafta de Gancha Tirosh Rabbi Yitzarecha, ce qui a marqué dans la Torah, dans la deuxième paracha, qu'on dit dans le Shema, que tu récolteras, tu sèmeras, tu couperas. Il dit ça, Torah Batealea. Si ça, ce sont les brachot, que je sois occupé pendant toute l'année par mon champ, alors ce n'est pas une bracha, et quand est-ce que je vais étudier la Torah? Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était connu que sa shita, c'était moi, la Torah, et c'est tout. La Gemara là-bas, dans le Shabbat d'Aflamedaï, la Gemara dit, Amar Abaye, Abaye a dit ceci, Arbe Asu comme Rabbi Ishmael ve Alta Biadam. Il y en a beaucoup qui ont fait comme Rabbi Ishmael, c'est-à-dire, Aneg Torah im derech eretz. Étudie la Torah autant que tu peux, mais complète-le par une conduite équilibrée. Arbe Asu comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y en a beaucoup qui ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Velo Alta Biadam. Ça n'a pas marché. Il y en a beaucoup qui se sont consacrés uniquement à l'étude de la Torah et ils n'ont pas réussi. Non. Vous voyez tout de suite la question. S'ils ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi ils n'ont pas réussi? Il fallait dire, Arbe lo asu, ils n'ont pas fait comme lui. Parce que s'ils ont fait comme lui, s'il a réussi, pourquoi il ne réussirait pas? Vous comprenez? Il y a marqué Arbe, il y en a beaucoup qui ont fait comme Rabbi Ishmael, ça a marché. Ceux qui ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ça n'a pas marché. Mais s'ils ont fait comme lui, ça devrait marcher. Donc il fallait dire, Arbe lo asu, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'ont pas fait, mais pas qu'ils ont fait. On dit au nom du Rav Mibrisk que lui a répondu à cette question comme ça. Il dit, faire comme Rabbi Ishmael, on peut le faire, parce que c'est une shita, c'est un système. Tu peux faire comme lui. Faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne peut pas copier. Pourquoi? Rabbi Shimon Bar Yochai s'est enfermé dans une caverne. Il avait faim, il a pris à Kadosh Baruch Hu, il y a un caroubi qui est apparu, il a mangé. Il avait soif, il y a une source qui est apparue. Il dit, qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qui ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai? Ils sont rentrés dans une caverne. Au bout d'un quart d'heure, ils ont demandé où est-ce qu'elle est la source? Où est-ce qu'il est le caroubier? Puisqu'on fait comme lui. Et non, ça ne marche pas. On ne peut pas faire comme lui. On ne peut pas copier. Rabbi Shimon, on peut le copier. Pourquoi? Parce que c'est un système. L'équilibre, c'est un système. Mais lorsqu'on se déséquilibre, ça ne peut pas être un système. Ça doit être la personne elle-même qui fournit de quoi tenir le coup. Et tu ne peux pas copier l'autre. C'est exactement la même chose. Si on veut comprendre l'histoire d'Elisha ben Avouya, on ne peut pas copier la valeur. Ça ne veut rien dire. Mais une autre chose qui se passe, c'est qu'il y a un parfum qui se transmet. C'est ce qui est marqué ici. C'est-à-dire que le nom dit, ça donne des valeurs. Et ça adapte une personne à des possibilités dont elle doit attendre elle-même l'épreuve pour comprendre qu'elle les a. Ça veut dire que on transmet un enfant, pas ce qu'on lui dit. On transmet un enfant en ce que l'on pense. Et même si on s'applique à le cacher, on lui transmet quand même ce que l'on pense. Le pauvre Elisha, pendant toute sa vie, il a essayé d'être comme Rabbi Eliezer Rabbi Yehoshua. Non, comme Rabbi Eliezer Rabbi Yehoshua, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça ne se copie pas. Tu essaies d'être comme l'autre, il n'y a rien à la fin. Comment on fait pour être? C'est qu'on doit se mesurer aux valeurs en tant que telles. Ne pas copier une conduite. Ce n'est pas la conduite qui va faire. C'est ce qu'on a à l'intérieur de soi. Ça veut dire qu'un enfant, lorsqu'on dit qu'il est sensible au non-dit, c'est qu'il adopte comme conduite la conduite de ses parents, mais dans le non-dit, pas dans le dit. Dans ce qui est dit, c'est une transmission. On vous a dit un cours, vous le connaissez à moitié, vous le connaissez aux trois quarts, vous avez envie de le changer, vous n'avez pas envie, il ne vous intéresse pas. Dans le dit, on a une liberté. Pourquoi j'ai entendu quelque chose? Je ne suis pas d'accord. Même un enfant. Mais dans le non-dit, c'est autre chose. Ça veut dire que dans le non-dit, on sent l'angoisse de la personne, on sent le contentement de la personne, on sent ce que la personne est à l'intérieur. Et ça, un enfant, il essaie de se l'approprier. Si on veut qu'il ne se l'approprie pas, on est obligé de le retransformer en dit, et pour pouvoir, on va dire, le déprogrammer, ce qui est très difficile à faire, ça veut dire que c'est difficile de rééduquer. Parce qu'on doit enlever plein de choses que l'enfant a perçues à son insu. Il y a un jour quelqu'un qui m'a demandé « Pourquoi est-ce que mon enfant n'étudie pas ?» Ça n'intéresse pas. Alors que moi j'étudie. Alors j'ai répondu « En vérité, comment est-ce que tu lui as montré que ça t'intéresse ? Tu lui as montré que tu étudies, allez, va faire autre chose. » C'est pas parce que le père conduit une voiture que le fils a envie de conduire une voiture. Mais comment est-ce qu'il est sûr que ça t'intéresse? Ah, il m'a dit, j'ai consacré beaucoup de temps. C'est pas encore une preuve. Ça peut être une nécessité, mais pas quelque chose qui vous intéresse vraiment. Et une nécessité, on la fuit. Comment lui faire comprendre qu'il peut avoir un intérêt là-dedans? C'est pas seulement une nécessité. À telle heure, il faut faire ci, à telle heure, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est fastidieux. On rentre dans la vie, on est petit, tac, 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 déjà, il faut faire ci, il faut faire... Hey. Non, on ne fonctionne pas comme ça. On fait les choses avec envie, plus, moins. Comment est-ce qu'on va faire? Ah, je dis, c'est très simple. Les jours, ou les soirs, ou les nuits, où tu t'es endormi sur ta Gemara, et tu te réveilles le matin à ton bureau, et que lui l'a vu, là, il a remarqué que ça t'intéresse. Mais si ça ne t'intéresse pas assez au point que tu as le temps de terminer parce que l'heure est terminée, alors lui aussi, il commence à l'heure, il termine à l'heure. Ah, ça ne l'intéresse pas. Qu'est-ce que tu veux lui faire? Il n'a jamais vu quelqu'un que ça intéresse. Il faudra un jour lui montrer quelqu'un que ça intéresse. Alors peut-être que lui aussi, ça va l'intéresser. Ça veut dire que le nom dit... C'est celui qui a l'importance, c'est pour ça que le texte y parle. Shlachayir par des cérémonies, alors qu'on parle des fruits. La fruit c'est une mamachouk, la fruit c'est quelque chose qui existe. Ah, on parle que du parfum après. On ne parle plus de ce qu'il y a à l'intérieur de fruits. Il n'y a que le parfum qui est important. Il y a une deuxième chose qu'il faut savoir. C'est la valeur que l'on donne aux choses, comment est-ce qu'on peut la faire comprendre? Comment est-ce qu'on peut la faire passer? Moi, j'ai certaines valeurs, elles sont importantes. Mais je ne peux que raconter. Comment dans le non-dit, on peut faire passer une valeur? Il faut savoir que si on ne fait pas passer une valeur à l'enfant, on va dire plus pas une valeur, la valeur des choses, lui-même, il n'arrivera jamais à peser ce qui est vraiment important, ce qui est un petit peu moins. Toute chose qui n'est pas valorisée, on peut demander à personne au monde de s'y atteler. Pourquoi? Parce que ce qui est marqué dans le Pirkei Avot, Al te shamshu et arav al menach le kabel pras, ne servait pas Dieu avec comme condition de recevoir un bénéfice, c'est une chose qui met toute sa vie pour y arriver. Il est évident qu'au début, comme le bénéfice, il est normal, on ne peut pas se cacher qu'il y aura un bénéfice. Il est évident que le bien poursuit le bien et le mal poursuit le mal. C'est évident qu'il y aura un bénéfice. Mais comment faire pour ne jamais y penser? Ne jamais faire pour le bénéfice. Et pourquoi on ne doit pas faire pour le bénéfice? C'est le vrai problème. Lorsque j'emploie quelqu'un, évidemment, il va faire ce qui est dans le sens de mon entreprise, puisque j'ai employé dans mon entreprise. Mais est-ce qu'il va le faire pour l'entreprise ou pour le bénéfice? Évidemment, il va le faire pour le bénéfice. Presque plus pour l'entreprise. Est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il a affaire avec moi? Est-ce qu'on a un projet en commun? Et même si c'est la dernière chose dont on parle sur le CV, mais finalement, c'est la première chose qu'on regarde. D'accord. Si j'ai quelqu'un qui travaille depuis 20 ans dans mon entreprise, et que je remarque que la seule chose à laquelle il pense, c'est le salaire, et que lorsqu'il n'y a rien à gagner, ni rien à perdre, il n'a pas le souci de l'entreprise. Je vais aller chez lui, je vais lui dire, dites-moi, ça va pas, c'est pas ça que j'attends. Qu'est-ce qu'il va me répondre? Dites-moi, ouais. Moi je suis venu pour travailler pour gagner ma vie. Comme on dit aujourd'hui, je ne suis pas venu pour gagner la vôtre. Qu'est-ce que je vais lui répondre? J'avais comme illusion, je croyais, qu'à un certain moment, il y avait une relation personnelle qui s'était établie. Et que les projets de tout le monde, c'était les siens. Mais pas qu'il arrivait à donner le change, et que lui, finalement, il ne travaillait que dans le sens de sa rémunération, alors que les autres, ils avaient le souci d'entreprise. Ça veut dire que les liens qui se créent et font que ça va être placé au second rang. Évidemment, tu dois vivre. Bien sûr, on va te donner. Évidemment, ça mérite salaire. Plus tu as de responsabilité, plus on va te donner salaire. Plus tu travailles, plus on va te donner à manger. Jusqu'à ce qu'on ne peut plus. Mais quand même, on croit que dans les relations entre l'employé et l'entreprise, il y a quelque chose de plus noble qui est arrivé à se créer peu à peu. Pourquoi est-ce qu'on a cette ambition-là? D'où est-ce qu'on peut penser une chose pareille? C'est très simple. C'est que les contrats ne se passent qu'entre des gens qui ne sont liés que par le papier. Mais si on veut un autre type de relation, on est obligé de déchirer le contrat. On ne peut pas à chaque fois. C'est comme des gens viennent et vous demandent, je vais me marier, quelles sont les choses importantes, à quelles il faut. On lui dit, voilà, les choses importantes. On peut les noter. Si tu les notes, et chaque fois que tu es obligé d'ouvrir le tiroir et sortir le truc, c'est pénible. C'est pas ça qu'on attend. C'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait une relation qui se tisse dans le même but, sans penser toujours à protéger ses droits. Si ça ne se passe pas comme ça, ça veut dire que finalement, il n'a pas compris qu'il y a une valeur qui est plus haute que sa propre personne. Et quelquefois dans la vie, il y a des choses où tu n'as rien à gagner, rien à perdre. Il faut quand même les faire. Avec le bon Dieu, c'est la même chose. Il est évident que si je me conduis bien, j'ai droit à des revendications. Si je me conduis mal, je vais me faire taper dessus. C'est évident. C'est dans l'ordre des choses. C'est la logique que n'importe quel homme peut comprendre. Mais si je n'arrive pas à me dégager de ça, pour essayer de savoir qu'est-ce que le bon Dieu veut de moi, qu'est-ce que le bon Dieu a voulu, qu'est-ce qu'il est en train de trafiquer, qu'est-ce que moi je peux faire, sans penser à la rémunération. Et même s'il n'y a pas de rémunération, un patron, il vous a fait des tovot pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne peut pas lui faire de temps en temps une tova. Le bon Dieu nous a fait une Torah, deux Torahs, trois Torahs. Donc il n'y a pas un moment où ça doit arrêter les deux ordonnants. C'est ça ce qui a marqué Atiouka Valim, Amsham Shumetarav, Amnatakabel Pras. Il y a un moment où tu dois te sentir concerné par ce qui se passe dans ta vie et la place que tu donnes à ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de ta vie à toi, sans passer toujours par ce que tu vas gagner, tu vas perdre. Pour arriver à ça, il faut être clair d'abord dans ce qu'on gagne et dans ce qu'on perd. Parce que si la rémunération est la taille, quel est celui qui va jamais avoir le souci de l'entreprise? C'est celui qui n'est pas sûr de sa rémunération. Pourquoi? Parce que celui-là, il ne peut pas faire passer au deuxième plan des choses dont il n'est même pas sûr. C'est comme si on dit, je ne peux pas passer au second degré, je ne peux pas passer au troisième degré si je ne suis même pas sûr du premier degré. Un enfant, ça doit être clair que lorsque ça va dans le bon sens, c'est récompensé. Et lorsque ça va dans le mauvais sens, c'est puni. Ça doit être tellement clair chez lui que normalement, avant un âge très avancé, on ne doit pas arrêter ce système-là. Parce que si on arrête ce système-là, c'est qu'on le considère, on ne va pas dire comme un tzaddik, mais presque, alors que nous, souvent, on vit encore dans ce système. Et quelle est la preuve qu'on vit encore dans ce système? Les gens, ils vous disent, mais pourtant, j'ai fait plein de mitzvot et tout, hein, j'ai pas vu que le mon Dieu, il va tellement... Alors, comment est-ce que tu peux exiger de ton enfant autre chose? Un jour, il va dire, bon, le bon Dieu, il peut ou il ne peut pas, sinon je ne fais pas. On va dire, tiens, pardon, mais c'est ton système. C'est-à-dire que je suis obligé de donner un système de valeurs efficace. Il n'y a rien qui doit être laissé de côté. Comme un adulte, je travaille dans une entreprise, même les heures supplémentaires, même les quarts d'heure, je les compte. C'est normal, c'est mes droits. Un enfant, c'est son droit d'être récompensé, comme c'est son devoir d'accepter d'être puni. Ça doit durer assez longtemps, jusqu'à lui-même en ait honte. Comme un adulte, quelquefois, commence à avoir honte d'avoir établi en tellement d'années ce manque de relation avec le monde. Alors tout doucement, il commence à se dire, on a déstabilisé. C'est-à-dire qu'on peut arriver à transmettre si le dit est tellement clair qu'il n'est jamais remis en cause. Alors on peut commencer à passer aux choses qui sont un peu plus fines. Mais tant que c'est remis en cause, c'est impossible. Vous savez qu'un enfant, il a une sensibilité à la justice et à l'injustice énorme. D'où ça vient? Ça vient pas parce que c'est un grand sadique et qu'il est préoccupé par le malheur des autres. Ça vient parce qu'il a une telle idée que chaque chose doit être récompensée. Et il est tellement d'accord d'accepter que chaque chose qui est mal faite doit être punie, que lorsqu'il ne retrouve pas ce même modèle à l'extérieur, il est troublé. Un adulte, le fait qu'il soit insensible à la justice et à l'injustice pour les autres, ça n'est pas comme on pourrait penser un chisaron. C'est pas un manquement. C'est le contraire. C'est mal. C'est une qualité. De ne pas rechercher toujours le juste et l'injuste. Parce que celui qui recherche toujours le juste et l'injuste, c'est celui qui regarde toujours les contrats. Mais quelqu'un qui sort de ce système, pour lui-même, il ne fait plus tellement attention à ce qui est juste et ce qui est injuste. À ce moment-là, il y a une nouvelle avoda pour l'adulte. Parce que l'adulte, ça va être par rapport à lui. Toi, tu ne dois pas être matpil. Toi, par rapport à toi, tu dois renoncer. Mais par rapport aux autres, tu n'as pas le droit de renoncer. Mais ça, c'est un travail. Si c'est quelque chose d'inné, soit les gens qui viennent, ils vous disent, ah moi, la justice, je ne peux pas supporter. Celui-ci, il ne faut souvent pas aller travailler avec lui. Parce qu'il va vous compter les secondes, pas seulement les quarts d'heure. Parce qu'à partir du moment où il est tellement sensible à l'injustice, c'est qu'en vérité, il veut toujours que tout soit rémunéré. Il n'est pas arrivé à sortir de ce schéma d'enfance. On doit arriver à sortir. Maintenant, il y a un autre travail qui doit être fait. C'est que toi, tu dois sortir de ce schéma, mais pour l'autre, tu dois être archi rigoureux. Pourquoi? Parce que Tu n'as pas le droit d'exiger de l'autre. C'est à l'autre d'exiger de lui-même, et toi, tu ne peux pas te permettre. Ça, c'est une des midotes, c'est une des qualités de la vie. Lorsque c'est à l'état brut, c'est-à-dire que c'est quelque chose de normal, c'est que la personne, elle est petite. Les gens qui ont affaire avec la justice, ils sont très petits. Et je vous dis la preuve. On trouve rarement des vrais communistes qui sortent de milieux intellectuels. Le vrai communiste qui est sensible à la justice et à l'injustice, c'est celui qui est condamné à vivre petit. Il y a une revendication, une autre revendication. Tout son monde, c'est un monde de ce qu'on appelle le srar et le onesh, de récompense et de punition. S'il est en retard, il accepte qu'on enlève des heures. Mais il faut réévaluer chaque année. Il faut ceci, il faut cela. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont habitués à ce système à un tel point que la moindre injustice, ça les rend fou. Donc ils se réfugient là-dedans parce qu'ils croient qu'avec l'égalité, on va rétablir la justice. Mais en vérité, c'est une petitesse intellectuelle énorme. Ça veut dire que c'est des gens qui n'arrivent pas à se dégager du fait que c'est vrai que tout travail mérite salaire. On en parle 5 minutes, on en parle une demi-heure, il faut s'arrêter. On ne peut pas en parler toute sa vie. C'est vrai que l'injustice sociale, c'est quelque chose qui n'est pas bien, c'est... Ça y est. On est obligé de s'occuper un petit peu d'autres problèmes. Quelqu'un qui est trop occupé par son problème, et en vérité, on n'a pas le droit non plus de leur jeter la pierre, parce que vous savez que les intellectuels, c'est ceux qui ont assez de liberté pour ne pas penser à leur beefsteak. Alors ils pensent à autre chose. Mais quelqu'un qui n'a pas assez de liberté pour ne penser qu'à son beefsteak, vous ne pouvez pas lui demander non plus ce dont il n'est pas capable. En tout cas, lorsque l'on parle de limites qu'on doit donner à un enfant, les limites, elles ne peuvent exister que si les choses ont une valeur. Et la valeur, elle doit être quelque chose qui est acceptable et qui est valable pour l'enfant. Il y a des professeurs qui n'arrivent pas à avoir de discipline. Ils n'arrivent pas à obtenir. Ok. Alors un jour, je suis rentré dans la classe, je lui dis, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je lui dis, vous le récompensez un peu quand ça va bien? Ah, il me dit, je leur donne des images. Les gosses, ils ont 12 ans, tu leur donnes des images. Alors il ne comprend pas qu'un gosse à 12 ans, avec une image, il n'a pas mesuré la valeur de son image peut-être. Mais qui sont moins sensibles à l'art que d'autres. Mais quand même, lorsqu'on ne sait pas prendre la proportion des choses, on ne sait pas évaluer la valeur des choses, ça ne veut plus rien dire. La troisième chose qu'il faut comprendre, et ce qui a l'air d'être marqué ici, Mayan Ganim Be'er Mayim Chay. Mayan Ganim. Lorsque l'on parlait de la façon dont une fille juive doit se comporter, on a dit Gannaou la Chotikala. C'est quelque chose de réservé. Et ici, tout d'un coup, on dit Mayam Ganim ber Mayim Chayim. Mayam Ganim, c'est l'eau qui jaillit dans le verger. C'est Ber, un puits Mayim Chayim. Alors, on va essayer de voir. C'est que la différence entre le Ber et le Mayan. Mayan, c'est la source. La source, normalement, dans le langage de la Torah, elle s'appelle Mayim Chayim, de l'eau vivante. Pourquoi ? Ça n'est pas de l'eau puisée. C'est de l'eau qui se recycle en elle-même. Elle n'attend personne pour être recyclée. Elle se recycle d'elle-même. C'est de l'eau vivante. Be'er, c'est pas automatiquement de l'eau vivante. Ça peut être de l'eau stagnante aussi. Ici, il y a marqué Mayan Ganim, Be'er Mayim Chayim. Alors, on va essayer de comprendre. L'obligation du discours que les parents sont obligés d'avoir avec leur enfant et qui ne peut pas passer par le non-dit, c'est l'enseignement de la Torah. L'enseignement dans la Torah, il est fait de connaissances. Il n'est pas fait seulement de folklore. Il est fait de connaissances précises. Où est-ce qu'il y a la place dans le non-dit, dans ces connaissances précises? J'enseigne à quelqu'un, le Shabbat, c'est comme si, ça c'est comme cela. Où est-ce qu'il y a la place du non-dit là-dedans? Alors on pourrait dire, ben, il n'y a pas de place, il y a des choses qui doivent être dessus, c'est tout, c'est comme dans une classe. Tu n'as pas appris ton cours, on ne discute pas. Mais finalement, on est obligé de comprendre que c'est pas exactement comme ça. Parce que pourquoi est-ce que ça incombe aux parents? Ça pourrait être une mitzvah que l'on commence lorsqu'on est grand. Ça pourrait être une mitzvah du clan d'Israël, dans les écoles. Pourquoi est-ce qu'il y a l'obligation pour les parents de transmettre pas seulement une éducation, c'est-à-dire une auto-restriction ou auto-régulation d'une personne, comme on a dit, c'est ça le Derech Hachinuch. Mais il y a encore la transmission d'un savoir exact. On va essayer de comprendre. Vous savez qu'il est marqué « Ba'asara ma'amarot nivra olam ». Le monde a été créé en 10 paroles. « Ba'asereta dibrot » c'est par 10 paroles aussi que la Torah a été donnée. La différence entre le mot « ma'amar » parole, « va'yomer elokim » Dieu a dit, et le Aseret Adibrot qu'on traduit nous par commandement, qui en vérité, ça vient du mot le daber, la parole, c'est que le Mahamar, il est ce qu'on appelle Belashon Raka, il est sans exigence, alors que le Dibour, il est dur, il est avec exigence. Le Maharal de Pral explique que ce qui est écrit dans la Gemara, dans le traité de Rosh Hashanah, qu'il y a 26 générations, où le monde a été nourri gratuitement. Et ces 26 générations où le monde a été nourri gratuitement, c'est les 26 générations où la Torah n'avait pas encore été donnée. Et c'est les 26 fois que nous répétons, dans ce qu'on appelle le grand Hallel, qui est dans les Tehillim, où il y a marqué « Odu l'Hashem Kitov, ki le olam chasdo » 26 fois. On dit le Shabbat matin. Ça correspond à ce qu'on appelle le chesed du vitour. Je donne quelque chose à quelqu'un parce que je renonce à mes droits. Je donne gratuitement, il n'a pas mérité. Un pauvre vient chez moi, il a mérité, il n'a rien mérité du tout. Quelqu'un a fait faillite, il a mérité, il n'a rien mérité. Bon, je lui donne. Il y a un deuxième chesed, il y a une deuxième façon de donner de soi. On appelle ça le chesed mishpat. C'est de donner de soi selon ce qui est juste à toute bonne action. Il mérite récompense. À partir du moment où la Torah a été donnée, le bon Dieu se conduit avec moi avec un barème. C'est juste sur soi, c'est pas juste sur soi pas. Avant que la Torah ait été donnée, le bon Dieu se conduisait avec l'homme sans barème. Il fallait vraiment que l'homme casse tout pour qu'on lui enlève. À partir du moment où la Torah a été donnée, c'est ça la fin de ces 26 générations. Il y a un mishpat, il y a la valeur aux choses, ce sont les mitzvot. C'est ça ce qui donne la valeur aux choses. Ça, tout le monde le comprend. Un enfant, on doit le faire passer, comme le clan Israël est passé, comme le monde est passé, du chesed vitour au chesed mishpat. C'est-à-dire, au commencement d'enfant, on lui donne parce qu'il existe. Il est mérité, il n'a rien mérité du tout. C'est non qu'il avait voulu, comme Dieu, c'est lui qui a eu le projet. Il n'allait pas demander des comptes aux anges, puisque c'est lui qui avait le projet. Ça a duré 26 générations, ça veut dire jusqu'à ce que l'humanité soit mûre, pour accepter une loi. Maintenant, le même chesed, tu l'auras selon la loi. Ça s'appelle les dibrot. On commande. Avant, On l'a dit. On n'a pas commandé. De la part du bon Dieu, moi, je dois y voir la même bonté vis-à-vis de moi. Seulement, maintenant, il y a un barème. On est adulte, un enfant, c'est la même chose. Il y a un moment où on doit lui donner gratuit. Pas pour ce qu'il vaut. Et il doit pouvoir passer de l'enfance, c'est-à-dire quelqu'un qui a été désiré et qui ne désire pas lui-même, et qui peut même, quelquefois, penser, au fond, qu'on lui doit beaucoup, parce qu'il n'a pas demandé à venir, et qu'il a le droit d'exiger certaines choses, à un moment où il va arriver au mishpat, où il va comprendre que l'intérêt, c'est pas on te doit, qui a voulu, qui a pas voulu, l'intérêt, c'est qu'est-ce que tu vaux, et que la vie ne peut pas se passer autrement, et que le Olam Haba ne peut pas être déterminé autrement que par qu'est-ce que tu vaux. Cette valeur-là, elle passe par le commandement. On peut enseigner à son fils toute la Torah. Il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, sans lui enseigner cette notion-là. Ça veut dire que l'obligation aux parents d'enseigner à leurs enfants, c'est pas parce que le dit de la loi doit être fait juste par les parents. C'est parce qu'en transmettant ce qui est dit de la loi, ce sont les parents et uniquement les parents qui doivent pouvoir, à moins qu'ils ne peuvent pas, mais en tout cas c'est mieux que ce soit les parents, parce que son propre dit, on l'accepte, c'est son enfant. Son propre nom dit, on l'accepte, même s'il n'est pas bien. Le nom dit des autres, on l'accepte plutôt mal, même s'il est mieux que le vôtre. Un enfant doit lui faire comprendre, un adolescent, on doit lui faire comprendre qu'il y a un moment où il doit accepter d'être jugé sur pièce. Chaque chose a une valeur, toi aussi tu as une valeur. Tu t'es inséré dans un puzzle où tout est jugé selon la valeur. Maintenant, c'est du domaine du dibour. Ça veut dire que la Amira, ce dont on te parle, ça devient un commandement. Ce commandement, c'est pas pour te restreindre, c'est le contraire, pour donner à une valeur, pour donner une valeur à ce que tu fais. Si celui qui fait beaucoup, celui qui fait peu, on est d'accord, leur donner la même chose tous les deux. Celui qui a fait beaucoup, ça n'a aucune valeur. Quoi, je vais me convaincre de faire? Je suis obligé de donner le sens de la valeur à l'enfant en lui enseignant des commandements. En lui disant que la Torah leur donne ceci, leur donne cela, leur donne cela. C'est comme ça qu'on marche. Que ça veut dire que c'est un ordre? C'est un ordre de valeur. C'est un dibour. Le dibour, il a été dit à des gens qui peuvent rendre compte, ce qu'on appelle le mishpat. On doit pouvoir peser. Ça veut dire que la différence entre un enfant et un adulte, il y a des gens qui sont enfants toute leur vie. Ils croient qu'on leur doit quelque chose. Ils croient que leur bon Dieu leur doit quelque chose. Ils trouvent tout à fait normal de se réveiller le matin. Et c'est à eux. Comment? T'as acheté ta vie? Allez, j'ai pas demandé à venir. Combien de temps? Ça veut dire que t'as toujours pas pris de décision. Ni de repartir, ni de rester. T'as pas demandé à venir. L'adulte, c'est celui qui est passé des mahamarotes. Il est passé du simple Amira, c'est-à-dire on te décrit les choses, à ce que ces mêmes choses-là, elles te rendent responsable. Au Dibour. Comment est-ce que ça passe, Rabotai? Malheureusement, par les 10 makot. On ne peut pas passer de la Amira à Saramarot Nivorolam. Jusqu'à Seret Adivot qui ont été donnés sur le mont Sinaï, sans les 10 makot. Les 10 coups, de nouveau 10, qui ont permis la sortie d'Égypte. Ça veut dire que quoi? C'est qu'un enfant doit avoir la conscience claire que lorsque tu ne fais pas ce que tu dois faire, c'est ta propre destruction. Ça passe par les 10 coups. Attention, n'allez pas dire qu'il faut donner des coups, mais ça passe à partir du moment où l'enfant lui-même il va remarquer que sa propre valeur a été déterminée par les autres et qu'il est comptable de ses propres valeurs. Et ça, ça vient très vite. Ça vient plus vite qu'on le croit. C'est-à-dire que quelquefois les parents regardent encore les enfants comme des tout-petits, alors que l'enfant est sensible à n'importe quoi et exactement comprend très bien que ce qui lui arrive, c'est un rapport et dans son entourage et dans son éducation un rapport avec la façon et quelle est la valeur qu'on lui donne. C'est-à-dire que ça va vite de passer des Asara Mamarot, on te donne tout ce que tu veux et tu as le droit de dire tout ce que tu voulais, à un moment où toi-même tu vas remarquer qu'on te regarde selon ce que tu fais. C'est ça ce qui est marqué dans les Pirkei Avot. Ma'asecha yirachakucha, ma'asecha yikarvucha. Ce sont tes actions qui te rapprochent des autres et du bon Dieu, et ce sont tes propres actions qui t'éloignent des autres et du bon Dieu. C'est pas la faute, hein. Il y a un moment où on est obligé d'être conscient de ça. C'est-à-dire qu'on passe de l'inconscience à la conscience par la responsabilité. C'est-à-dire un certain moment où on doit se dire, oulala, il faut que je fasse attention, parce que j'ai remarqué qu'on me jugeait selon qui j'étais. À ce moment-là, on a déjà pris la responsabilité. C'est ça ce qui est marqué ici, on peut comprendre. Ma'ayan ganim be'er ma'im re'im. Ma'ayan, la source. C'est-à-dire que il y a des choses qui viennent, la Torah, elle est ma'im re'im. Elle est ma'ayan, elle est une source, elle peut abreuver tout le monde, à une seule condition. C'est que ce soit ma'im re'im. Ça veut dire quoi? C'est toi qui deviens le moteur. La Torah, c'est une source de vie, mais il faut que le beher, le puits qui peut être de l'eau stagnante, c'est quelque chose qui vit. Et comment est-ce qu'on sent quand quelque chose vit? C'est pas seulement de l'action, de la réaction. Quand quelqu'un commence à prendre conscience qu'il a de la valeur. Parce qu'il faut savoir que malheureusement, de même qu'on se juge soi-même, personne ne peut éviter de juger, si ce n'est les autres, au moins les actions des autres. Ça veut dire qu'un enfant, il sait très bien qu'on l'apprécie, quoi qu'on le dise, qu'on l'aime même lorsqu'il fait des bêtises. Et on va lui dire qu'on l'aime même lorsque il sera en prison, on va lui amener des oranges. Il sait très bien qu'il y a des choses qui, dont les liens se tissent selon la valeur qu'on lui donne. C'est impossible que ce soit autrement. Et ça, ça va très très vite. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ma'ayan Ganim. Quelqu'un, il passe de la notion de recevoir à la notion de quelqu'un qui va abreuver. C'est vrai que je n'ai pas le droit de juger. Je ne peux pas juger celui qui est en face de moi facilement. Mais les actes doivent pouvoir être jugés absolument. Et la valeur des actes, c'est ce qui détermine aussi les relations avec les gens. Parce qu'il y a des gens desquels on ne veut pas supporter les actes. Donc, même si on ne les juge pas, on ne les fréquente pas. Il faut comprendre qu'il y a ici une notion qui est plus délicate encore. Ce que je vais transmettre, c'est vrai que c'est un savoir. Tu dis, c'est comme le beurre. Il y a un savoir. Comment est-ce qu'il devient Maïm Chaïm? Parce que c'est à cet étalon-là qu'on va mesurer la vie elle-même. Qu'est-ce que c'est qu'une vie qui a du poids, qui a une valeur? Qu'est-ce que c'est qu'une vie qui n'a pas de valeur? Un enfant, il le comprend tout de suite. Et c'est ça ce qu'on appelle l'éducation. Son éducation, elle est faite lorsqu'il s'est rendu compte que dans des situations, il est obligé de s'adapter, il est obligé de se travailler, il est obligé d'être à la hauteur, parce que il est jugé quelque part, sans penser que ce soit Pierre ou Paul, il est jugé quelque part selon ce qu'il produit. Il produit du bien, il attire du bien. Il produit du mal, il attire du mal. Et ça, que ça vienne vite, que ça vienne peu, ça vienne lentement, on ne peut pas s'en sortir. Ça veut dire que moi, je peux recevoir des paroles de Torah les plus fantastiques, me mesurer à l'aune de la loi la plus parfaite. Si je n'ai pas compris ce derrière du chinon, c'est-à-dire que je suis obligé de m'adapter, et je suis obligé de savoir qui je suis par rapport à ces choses-là, ça ne sert à rien. Donc maintenant, on peut comprendre le verset. L'enfant juif, c'est un enfant qui a les parfums de tous les côtés de la Torah. Mais à une condition. Ma'ayan ganim be'er ma'im chaim anozli minavalon. On va te donner l'eau rachidi la plus pure. Pourquoi? Parce qu'elle vient du Betamigdash, elle vient de la Shrina. On va abreuver un enfant à la sainteté. On va lui montrer qu'est-ce que c'est que le saint. On va lui montrer qu'est-ce que c'est que quelque chose qui a une kedusha. Où est-ce qu'elle est la vérité? Qu'est-ce qu'il va en faire lui? il est obligé d'être Be'er Maimchaï. Be'er, c'est, ça peut être là où on a mis de l'eau, il y a de l'eau qui est stagnante en dessous. Seulement, ça doit être un Be'er de Maimchaï. Il faut que cette eau-là, elle pousse. Le commandement ou la perception de l'étude de la Torah. Parce qu'il faut savoir que dans la Torah, quoi qu'on parle, on parle toujours de commandement, même si on ne prononce jamais le mot. On parle toujours de mitzvot. Quoi qu'on parle, on ne peut jamais prononcer le mot, mais on va toujours se mesurer à quelque chose où au fond, qu'est-ce que c'est? C'est mitzvot de la Torah. On te demande de te mesurer à ça. C'est pas la pensée, juste le cours, tu retraces le cours, tu refais, je sais ça, le Shabbat on fait ci, on fait pas ça. Non. À partir de ce moment-là, puisqu'il y a toujours en filigrane cette notion de savoir exactement la valeur que tu as par rapport à ce à quoi tu te mesures, on est obligé d'être soi-même un Be'er Mayim Chaim. Ça veut dire que ça vous donne, ça, des possibilités de vous mesurer, des possibilités de vivre. Si c'est simplement un savoir qui passe, dont toi tu es le maillon de la chaîne, et que tu dois transmettre un savoir, c'est pas important. Donc je vois qu'il est tard.
Que finalement il ne passe qu'un seul parfum, je veux dire, il y a des enfants qui sont différents, il y a Esav et Yaakov, donc il y a quelque chose qui échappe, ou je ne sais pas. Je profite pour poser une deuxième question, c'est, on dit souvent que les générations vont en baissant, alors qu'est-ce que ça veut dire, uniquement sur le plan de la Torah, enfin, est-ce que c'est sensible d'une génération à l'autre, ou il faut attendre les deux questions?
Ok. On va répondre à la première. Nous devons nous soucier de la façon dont nous transmettons les choses. Mais nous devons savoir qu'un enfant arrivera à un âge où il a tous les choix du monde et c'est de lui que ça dépend. Encore une fois, l'éducation, c'est de montrer à quelqu'un de quoi il est capable. C'est pas de le mettre dans une boîte de conserve pour qu'il ne soit pas obligé de se soumettre à l'épreuve. C'est pas ça. C'est pour que le jour où arrive l'épreuve, il sache exactement quelles sont les données de quoi lui il est capable. Ça n'existe pas de « je vais le fermer lui et puis on va le garder en conserve jusqu'à ce qu'après il n'y a plus de problème ». Quelqu'un doit se mesurer assez de choses pour que lui-même, il acquiert les dimensions. Tout ce qu'on a pu lui montrer quand il est enfant, c'est la manière d'aborder ces choses-là. Si, lorsque j'ai une épreuve, je prends ce qu'on appelle le derrière du chinour, c'est-à-dire je vais m'adapter, je vais essayer de savoir les tenants et aboutissants. Je vais essayer de faire l'effort. Exactement la même chose qu'on m'a suggéré. Alors c'est un derrière que je vais garder toute ma vie. Le derrière d'être mis traîner, d'être mis en cause. Si un jour je refuse, il faut donner au Tov ce qu'il a droit, il faut donner au Roi ce qu'il a droit. Ça, on ne peut pas éviter. La vie des autres ne nous appartient pas. On n'est même pas mis en cause parce qu'il leur arrive. Yitzhak, c'était pas un rachat parce qu'il avait un fils rachat. Yaakov, c'était pas un rachat parce qu'il avait. Abraham, c'était pas un rachat parce qu'il avait un fils rachat. Donc on n'est pas mis en cause par ça. Rien, la deuxième problème. Plus on s'éloigne du don de la Torah, et plus on éloigne l'enseignement de la Torah de l'homme. Seulement, comme tout est adapté, les neshamot aussi, elles sont adaptées à ce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous en demande moins qu'avant, et on en connaît moins qu'avant, on est moins capable qu'avant. Mais il faut croire que c'est toujours exactement la balance, est toujours exactement mise à jour pour que, selon les possibilités, on puisse exiger. Ça veut dire que c'est vrai qu'intrinsèquement, je n'ai pas la même madriga que celui d'avant, mais selon mes choix, je ne suis pas arrivé à la même madriga que lui. Mais pas objectivement, selon mon travail. Donc c'est pas un problème pour nous, on baisse, on monte. C'est pas grave. Que l'on fasse pas baisser déjà. Ok, ben maintenant.
Je suis non seulement à l'envoi des clés, je suis ici à Saint-Anne. J'ai les deux étiquettes. Vous m'avez rempli de l'air. Parce que vous avez un cours psychanalyse et un cours d'éthique. Un cours de psychanalyse parce que dans ce non-dit,
c'est ça.
Dans ce non-dit, il y a ce que la conscience peut faire passer dans l'éducation. Et j'ai compris comment l'éducation juive, c'est-à-dire que je me suis même posé la question, quand on dit que la psychanalyse était une histoire juive, c'était une affaire juive, une histoire juive, je ne suis pas si sûr que ça, grâce à vous. Je pense que le judaïsme passe au-dessus de ça, et que ce non-dit dans l'éducation, c'est-à-dire, eh bien, il peut se passer dans le tort grâce au
c'est ça.
C'est-à-dire que si on se... Absolument. Et deuxième chose, que l'éthique, c'est la responsabilité. L'éthique, c'est la responsabilité parce que même dans la connaissance scientifique, qui est une connaissance, comme vous le disiez dans la connaissance de la Torah, la connaissance n'est que la connaissance. C'est la connaissance à laquelle...
Qui donne la responsabilité, bien sûr.
Voilà. Vraiment, dans tout ce que je fais, ce soir, on m'avait apporté des éléments.
La question, oui, si on a deux enfants.
C'est ça, c'est tous sur les questions ce soir.
Oui, c'est pour ça, oui, c'est pas ça.
Oui, bien sûr.
Si il y a deux enfants qui sont différents, on trouve que les limites en fonction des possibilités que vous mettez à l'un devant l'un et à l'autre devant l'autre sont différentes. Et en fonction de l'épanouissement de l'enfant, donc les limites logiques ne sont pas les mêmes. Il peut y avoir une jalousie ou quelque chose où le grand...
Le grand, il doit être jaloux, c'est normal. Mais il doit comprendre qu'il y a un moment où on ne donne plus le biberon. Il doit prendre lui-même. Et ça, c'est le grand. Pour éduquer les jumeaux, ça doit être très très dur. Ça veut dire qu'on est plus de l'un plus que de l'autre. Mais les petits par rapport aux grands, au contraire, il faut l'amour qu'un grand apporte au petit. C'est la découverte de la différence entre lui et le petit. Plus il verra que le petit n'est pas capable de ce que lui est capable, et plus il aura de l'amour pour lui. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'il faut se faire aider par le grand. Tu vois, ton petit frère, il n'est pas capable de ça. Alors il faut l'aider là-dedans. Ce dont toi tu es capable, non, c'est en toi qu'on t'aide. Vous comprenez ? Donc l'autre aussi prend en charge. Maintenant, quand ils sont très rapprochés, qu'il y a de grandes différences, je veux dire, les compensations dans la vie, elles sont de l'autre côté. C'est pas là, c'est la plus jolie. Un en classe, il aura des bonnes endroits, l'autre souvent. Un, il réussira parce que les autres, ils sont des reprises, l'autre, il aura une capacité de réussir. Donc ça se mange quelque part. Il aura celui qui a une plus réussite, il a plus de réussite aussi de l'autre côté souvent. Ça se compense.
Il oublie les couples plus faibles, toujours tendance à se
dire quand c'est plus petit, il doit être allié avec les parents pour se dire le plus faible.
Il faut que j'y aille.
Il faut toujours faire des enfants.
Ils vont les voyer, mais
j'espère y aller. J'ai acheté une petite brochure en Israël, j'ai des louis Nishmat Avi, c'est sur les corbanotes.
Ah bon ?
Est-ce que je peux vous la donner pour la yeshiva, pour les gens de la yeshiva, si j'ai une petite un petit paquet, si vous trouvez certainement des gens à qui le distribuer, ça sera les louis.
Ah bon, d'accord. Je vous donne le 419, ça va ?
Comment ?
Je vous donne le 419 ?
Ah, vous pouvez me laisser ça ? Oui, d'accord. Vous pouvez le distribuer aux... Si j'ai rien distribué, il y a des gens qui le diront, c'est pour ça que je me permets de vous le donner.
Vous avez pas bébé.
Je dois pas. C'est pas triste, la vie.
Merci de
votre expertise.
Merci, d'accord.
Merci, d'accord. C'est pas triste, la vie. C'est pas triste, la
vie.
D'accord.
Vous êtes monsieur. Vous n'avez pas parti en vacances.